Alors bonjour, donc une fois de plus, donc j'excuse Pierre Fazon qui n'a pas pu être là aujourd'hui et je vais vous présenter en fait nos visions en fait dans le laboratoire d'agronomie sur la production de la sécurité à l'hôpital. Et je circonscris tout de suite le sujet en vous disant que je vais discuter exclusivement ici de la sécurité des patients et non pas la sécurité des professionnels de santé. La sécurité des patients est devenue une préoccupation mondiale puisque un rapport publié en 1999, Where is Human, décrit que 44 000 à 98 000 décès par an aux États-Unis sont des décès suivis suite à des événements indésirables liés aux soins. Dans la même lignée, l'enquête nationale sur les événements indésirables en France montre que 315 000 à 440 000 séjours hospitaliers par an sont causés par des événements indésirables. À ces chiffres s'ajoute un certain nombre d'incidents et d'accidents relatés dans les médias durant ces dernières années, qui augmente la prise de conscience par rapport au risque, à la fois la conscience des professionnels de santé, mais aussi des patients et plus généralement des citoyens, avec ici comme exemple l'affaire du sang contaminé, des accidents en radiothérapie, comme la catastrophe d'Épinal, par exemple, ou des infections liées aux soins, des infections nosocomiales. Donc face à ce constat, l'idée et la réflexion actuelle, notamment dans le domaine médical, Et la suivante, c'est est-ce qu'on peut transférer au milieu médical les modèles et méthodes de l'industrie à risque? Et il y a des choses qui sont déjà faites dans ce sens-là, et si oui, comment? Alors, ça amène à situer un peu les spécificités du domaine médical par rapport au domaine industriel, et je reprendrai ici le travail de Sebastiano Bagnara et de ses collègues, donc, qui notent un certain nombre de spécificités du médical, qui sont à la fois... Il s'agit d'un domaine où les accidents, généralement, sont limités mais fréquents. Donc, on est plus confronté à des épidémies plutôt qu'à des catastrophes, contrairement au domaine industriel. Les victimes ne sont pas les opérateurs, pas uniquement. Il y a la vie des patients est en jeu dans ce domaine-là. C'est un domaine également, un système où... constitué de composants humains, les patients et les professionnels qui doivent agir en commun aussi pour produire la sécurité, et en sachant également que cette situation est colorée d'une dimension émotionnelle importante et d'une diversité des relations interpersonnelles. Également une variabilité, une diversité imprévisible des patients qui font que tout ne peut pas être réglé au quotidien, puisque la spécificité des patients fait qu'on ne pourra pas toujours de toute façon appliquer et produire appliquer les règles de sécurité. Et enfin, le domaine médical est un domaine où expérimentation et production sont mêlées. J'entends par exemple les essais thérapeutiques en médecine qui consistent donc à comparer des traitements des médicaments versus placebo, par exemple, où donc l'échec est admis, chose qu'on ne retrouve évidemment pas dans le domaine industriel. Donc, maintenant que j'ai posé un peu les spécificités du domaine médical, si ça veut bien avancer, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc je me baserai ici sur un modèle donc à présenter François tout à l'heure, donc sur l'écart que relève Amal Berti entre d'une part la sécurité réglée et d'autre part la sécurité gérée, avec donc une sécurité réglée qui repose sur une intelligence refroidie, c'est-à-dire une intelligence sur des règles qui sont construites au-delà et en dehors de l'action. Une intelligence compilée, régularisée dans des règles et des procédures, et qui permet de gérer le quotidien, d'encadrer les pratiques et qui fournit un véritable cadre également pour l'action, une ressource. Et d'un autre côté, donc la sécurité gérée qui renvoie une intelligence dans l'action, qui est arbitrée, donc les opérateurs étant amenés à gérer des compromis entre des objectifs de santé, de sécurité, par exemple, et une intelligence constructive, puisque c'est par l'activité même que se développent des connaissances et des savoirs. Et donc, cette intelligence-là qui permet de gérer l'imprévu, qui permet de gérer le particulier, le spécifique, et également le nouveau. Et c'est sous ce cadre-là, en fait, que je vais vous relater deux exemples d'études. L'une porte sur le compromis dans le risque des manipulatrices en radiothérapie. La radiothérapie est un domaine peu procéduralisé, où donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ce domaine-là, du coup, il faut plus de sécurité réglée ? Et une deuxième étude qui porte sur la décision collective en cancérologie, où là, pour prendre des décisions des traitements, les médecins sont soumis à des règles thérapeutiques, à des référentiels, donc qui prescrivent les meilleurs traitements à appliquer aux patients, et où la question qui se pose est, faut-il moins de sécurité réglée et plus, faut-il intégrer de la sécurité gérée ? Alors, je démarre tout de suite, par exemple, sur le compromis dans le risque des manipulatrices en radiothérapie, qui est une étude menée par Adélaïde Nascimento. Et alors, les manipulatrices en radiothérapie sont les opératrices en bout de chaîne qui administrent le traitement radiothérapique aux patients, donc qui les installent sur la table et qui lancent les doses, les rayons. Ces opératrices-là, pour situer un peu le contexte dans lequel elles travaillent, donc elles sont soumises à une forte pression temporelle. Les manipulatrices ont environ 40 à 45 patients par jour à traiter. À côté de ça, elles doivent également gérer le planning des séances, gérer le matériel. Il faut savoir que la durée des séances est prescrite, et c'est 15 minutes par séance, quelle que soit la complexité du cas à traiter. Un contexte également fortement marqué par l'urgence des traitements, puisqu'on traite ici des maladies graves, et donc la prise en charge du patient doit être la plus rapide possible afin de lui donner le plus de chances de guérison possible. Et l'annulation d'une séance a des conséquences possibles sur la santé, et parfois importantes sur la santé du patient. Et donc on est face à une population qui a une conscience importante du risque, contrairement à d'autres situations de travail. Alors, les manipulatrices sont quotidiennement confrontées à elles ont à répondre en fait à un double objectif, un objectif qui vise à produire la santé des patients et qui consiste à délivrer les soins au moment prescrit, et un objectif qui consiste à produire la sécurité, qui vise à délivrer les soins dans les conditions prescrites. Alors, ces deux objectifs ne sont pas contradictoires, pas tout le temps du moins, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait produire de la santé en toute sécurité, mais ils peuvent entrer en conflit en cas de situation non nominale. Et dans ce cas, il va falloir gérer ce compromis entre santé et sécurité. Alors, j'ai mis là un exemple de conflit auquel les manipulatrices sont confrontées. Donc, par exemple, le dossier du patient n'est pas signé et le patient attend la séance du jour, sachant que le dossier doit être signé avant tout traitement par le médecin radiothérapeute qui a prescrit la dose et le physicien médical qui calcule la dose. Donc, face à cette situation, la manipulatrice a en gros deux solutions. La première, c'est de réaliser la séance. Dans ce cas-là, l'objectif santé sera atteint puisque le patient aura reçu sa dose. Mais qu'en est-il de l'objectif sécurité ? On est beaucoup plus incertain. La seconde solution, c'est de ne pas réaliser la séance et donc de retarder le début du traitement. Donc là, l'objectif sécurité est atteint puisque donc on ne prend pas de risque, mais la santé du patient peut en être fortement impactée. Alors, l'étude d'Adélaïde a notamment consisté à observer 138 séances d'irradiation. Et donc, elle a recueilli l'ensemble des situations non nominales et elle a recueilli également les stratégies de gestion des écarts par les manipulatrices. Alors, parmi les séances à déroulement non nominal, donc, Adélaïde en a relevé 44 sur 138, ce qui est quand même déjà assez important, où se manifestent 59 situations non nominales, c'est-à-dire qu'une séance de traitement peut comporter plusieurs situations non nominales. Alors, dans ce type, la gestion de ces situations non nominales conduit à des récupérations et à des régulations. Dans 43 situations sur les 59, donc, les manipulatrices récupèrent les carences locales, c'est-à-dire au poste de traitement sans faire appel à d'autres acteurs, et on revient tout de suite à une situation nominale, ou bien en faisant appel à des acteurs extérieurs. Par contre, le second type donc de situation non nominale à gérer va devoir mettre en œuvre, les opératrices vont devoir mettre en œuvre des régulations autonomes. Par exemple, donc, les dossiers ne sont pas prêts à l'arrivée des patients et les professionnels qui sont responsables de ce patient ne sont pas disponibles. Ou bien les dossiers sont présents mais ne sont pas signés, c'est l'exemple précédent. Ou bien il y a une panne, par exemple, de matériel. Dans ces cas-là, bien la manipulatrice a à prendre une décision entre, toujours pareil, est-ce que je privilégie la santé des patients ou la sécurité ? Alors, pour réguler, elle dispose d'un certain nombre de stratégies, évidemment, donc avec des règles d'arbitrage qui peuvent se faire en fonction du type de patient. Par exemple, si c'est un patient qui est déjà en cours de traitement, donc elles ont déjà irradié, et donc elles connaissent, elles savent mieux le positionner, etc., là, elles vont peut-être plutôt avoir tendance à traiter. En revanche, si c'est un patient nouveau, elles ne traitent pas. Et de même, les arbitrages peuvent se faire en fonction de la connaissance que les manipulatrices ont des différents médecins. Par exemple, si le physicien X et le médecin Y sont responsables du dossier et que le médecin n'a pas signé le dossier, la manipulatrice peut décider de traiter parce qu'elle sait que le médecin Y a confiance au médecin X et que donc c'est normal que la signature ne soit pas dans le dossier. De même, si le médecin est connu et qu'on sait qu'il ne signe quasiment jamais le dossier, les manipulatrices vont traiter. Par contre, si c'est un médecin nouveau et qu'il n'y a pas de signature, là, ils ne vont pas traiter, pas simplement parce qu'elles ne connaissent pas le médecin ou qu'il est nouveau, mais aussi pour le forcer justement à signer et ne pas faire en sorte qu'il rentre tout de suite dans des déviations. Voilà, il y a un certain nombre d'autres exemples, j'en dirai pas plus là-dessus. Mais donc, dans cet exemple-là, donc, j'y reviendrai en conclusion. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut plus de sécurité réglée pour fournir un cadre pour l'action ou intégrer, faire valoir la sécurité gérée, faire reconnaître la sécurité gérée au quotidien par les manipulatrices. Le second exemple donc, est sur la décision collective en cancérologie. Donc, en cancérologie, les médecins disposent de deux aides à la décision thérapeutique. Les référentiels thérapeutiques qui sont issus de la médecine fondée sur les preuves, donc où on ne prend plus des décisions seules, mais sur la base de référentiels de traitement, et où le rôle est d'optimiser en fait les soins, d'homogénéiser les soins et de standardiser les traitements. Et un second outil d'aide à la décision sont les réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc, il s'agit de réunions réunissant différents spécialistes, chirurgiens, chimiothérapeutes, radiothérapeutes, etc., et dont l'objectif est de donner un avis sur les cas difficiles, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans les cases des référentiels. Donc, en fait, ce que l'étude avait permis de montrer, là, c'est que le rôle prescrit des référentiels, des RCP, pardon, des réunions de concertation, est de recueillir l'avis des collègues sur les cas qui se situent à la marge des référentiels afin de prendre des décisions qui garantissent la sécurité des patients, c'est-à-dire la meilleure décision possible. Et parallèlement à cet objectif prescrit, des fonctions additionnelles ont pu être observées dans l'analyse de ces réunions. C'est que notamment, c'est aussi l'occasion de partager des savoirs de métier et de garantir la fiabilité globale des décisions, le collectif étant un moyen de construire l'espace, pour chaque cas, l'espace des solutions acceptables et inacceptables, et du coup d'avoir des règles de métier partagées. Et là, actuellement, le système de santé donc, a introduit une nouvelle prescription qui vise à faire passer dans ces réunions tous les dossiers, c'est-à-dire à la fois les dossiers qui rentrent dans le référentiel, les dossiers protocolaires, et les dossiers à problème. Donc les bénéfices anticipés, pourquoi cette prescription a été mise en place, c'est pour améliorer la fiabilité des décisions et garantir que toute décision, protocolaire ou pas, soit fiable par une analyse collective. Mais des conséquences prévisibles de cette situation, qui sont beaucoup moins, de notre point de vue, sont beaucoup moins positives, à savoir que faire ça, ça veut dire aussi, pour les médecins, avoir moins de temps pour traiter les cas difficiles, en marge des référentiels, donc des risques d'erreurs potentiels, également un développement plus difficile des savoirs individuels et collectifs et des règles de métier, puisqu'on a moins de temps pour ça. Également une mobilisation d'experts sur des cas simples. Donc on assiste ici à un véritable gaspillage cognitif où au lieu d'utiliser les savoirs pour les réintroduire et les réinjecter dans les règles, on mobilise des gens pour répondre à des cas entre guillemets évidents, pris en compte par les règles. Voilà, donc ces deux exemples, en fait, sont deux visions différentes du modèle donc, de sécurité gérée ou de sécurité réglée, ou dans le second cas, là, des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc, on est dans un cas où la décision est très procéduralisée, mais où, finalement, elle est mise à mal aujourd'hui par la montée de la surprocéduralisation qui risque de mener à un échec les connaissances et les compétences des médecins. Voilà, donc, du coup, ces exemples illustrent l'écart donc, entre sécurité réglée, qui vise à gérer le prévisible, et la sécurité gérée au quotidien par les individus. Et donc, il est donc important d'aller vers un modèle plus flexible de la gestion de la sécurité, qui est, comme le souligne Amaberti, qui doit être basé sur les acteurs et indispensable pour suivre aux incidents et aux crises, et d'aller à la fois vers un modèle qui permet, du coup, ce faisant, le développement continu des ressources qui visant à préparer le futur. Je vous remercie.